Il peut y avoir un fanatisme de la modération. Le fait de ne jamais prendre position, mais de se tenir à égale distance, équidistant des uns et des autres, sous prétexte d'y voir clair, sous prétexte de ne jamais céder à une tentation ni à une autre, mais et d'être un vrai réconciliateur, finalement le détruit, c'est-à-dire qu'il pousse ce qui est la raison même jusqu'à l'absurdité, jusqu'à l'aberration, et qui se détruit à la fois. C'est-à-dire que cette situation devient complètement paranoïaque.
Je reviens à Cervantes et à la question qui était pourquoi Sancho. Vous avez dit pourquoi bons offices. Effectivement, sa femme l'appelle bons offices, d'ailleurs sans dire monsieur bons offices. Elle le tutoie, elle dit bons offices, tu sais que, etc. Mais alors, le Sancho et le lien avec Cervantes par rapport à ce que vous disiez.
Le lien avec Cervantes, c'est quand même très mince. Il faut quand même bien dire qu'il n'y a aucune espèce de tentation de reproduire une espèce de Don Quichotte pour aujourd'hui. De la même façon que Terre d'Asile n'est pas un Robinson Crusoé d'aujourd'hui, bien que Jaime Morales se trouve dans une position d'insulaire et de naufragé. Donc j'aime bien évoquer, mais de façon sibylline et de façon, au fond, assez vaporeuse, comme ça, un grand mythe littéraire, pas pour me mettre à l'abri, pas pour essayer de bénéficier de ses privilèges et de ses apports, mais parce que nous sommes habités, malgré nous, par de grandes mythologies. Et on peut voir des Madame Bovary dans tous les romans d'amour d'aujourd'hui, etc. Enfin, c'est un jeu intellectuel qui n'a qu'un intérêt limité.
Mais ma question portait plus sur... Vous avez dit au départ que le personnage de Don Quichotte et Sancho Panza ne faisait finalement qu'un schizophrène. Voilà. Et vous dites maintenant que Sancho est paranoïaque. Alors, schizophrénie, paranoïaque, c'était là-dessus que j'essayais de vous faire parler.
C'est selon. Enfin, on a le cabaret du choix. Nous sommes tous des psychotiques, comme disait l'autre. Enfin, bref... C'est à force de bonne volonté, c'est à force de nourrir de bonnes intentions, de bons sentiments, que Sancho devient une espèce de Gaston Lagaffe, quoi. Ça devient une espèce d'immense gaffeur qui se trompe tout le temps. Il a tellement raison qu'il finit par se tromper. Quand on est dans l'entrechoquement des causes, des nobles causes, il y a des choix à faire. Et lui a réussi à ne pas les faire, finalement. Il ne va jamais jusqu'au bout. Et la seule fois où il y cède, j'allais dire, il n'en meurt pas, puisque la dernière phrase du livre est « c'est une question de vie » et il n'y a pas de ponctuation finale, ce qui veut dire que soit il voulait dire « c'est une question de vie ou de mort » et qu'il finit par sa mort, ou bien simplement le mot « vie » s'arrête et il reste sur la vie. Là, c'est l'étrange, c'est le mystère de ce livre, c'est que moi-même, je ne sais pas si Chanchotte meurt dans son désert ou si au contraire, il va en sortir.
Vous avez donné à Sancho dans un passage, et c'est vrai que retirer des phrases d'un roman, c'est comme retirer des phrases d'une citation, mais celle-ci me semblait particulièrement bien montrer la façon dont Sancho se voit lui-même. Il dit à un moment donné « Je ne réprouve pas cet espoir insensé d'une cohérence. » Et je trouve que chaque mot de cette phrase a du sens et porte autant que le prologue pour l'ensemble de l'histoire sur ceci, une clé pour le personnage.
Oui, parce que le désordre, le chaos auquel il est en butte est tellement énorme qu'il pourrait croire à certains moments de désespérance que retrouver une cohérence devient insensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir d'en trouver une, qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de logique dans tout ça. Il vaut mieux presque accepter, se laisser gagner par l'effroi, par l'épouvante et se dire « mais non, ça n'a pas de sens ». Et puis, il n'est pas comme ça, lui, Sancho. Il est incurablement optimiste. Au fond, c'est un candide. C'est un personnage incurable. Mais c'est aussi son salut de l'être. S'il est sauvé, c'est peut-être par justement ce côté qui espère contre toute espérance, comme disait saint Augustin. Ben, voilà, je crois qu'il y a un peu de ça. Je crois que c'est ça. C'est un homme qui espère contre toute espérance. Ce qui est à la fois candide et au fond très sage. Parce que si on ne fait pas ça, on se détruit de toute façon.
Mais dans cette phrase se trouve aussi cette espèce de principe qui est très destructeur pour lui, du non-engagement. Il ne dit pas je me bats pour cet espoir d'une cohérence, il dit je ne réprouve pas cet espoir insensé d'une cohérence. Donc il prend, même pour sa vie à lui, il ne prend pas position.
Non, il ne prend pas. Enfin, il prend position, mais toujours à moitié. Ouais. C'est comme dans sa vie sentimentale, et je crois que le livre est en grande partie fondé sur l'entrelacement, le contrepoint d'une grande histoire avec un grand H très sanglante qui est celle de l'éclatement du monde de l'après-guerre et qui a son point focal au Proche-Orient, et sur une petite histoire qui est un homme déchiré entre deux femmes. Et comme par hasard, l'une parle de Dieu et est pasteur, et très proche finalement d'une certaine judéité fantasmatique, et l'autre est palestinienne, est une militante palestinienne d'aujourd'hui.
Et, l'une c'est Roxane, son épouse, et l'autre c'est Leïla Kader.
Leïla Kader, voilà. Et voilà, donc il ne choisit pas non plus entre les deux. D'ailleurs, il ne choisit aucune femme. Il y en a d'autres encore qui sont des satellites et qui tournent autour. Et il finit par, comme dit Debray dans sa préface, par se brouiller avec toutes. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça m'a beaucoup amusé. Il dit : c'est un homme qui se brouille avec. Qui se brouille avec le monde, qui se brouille avec une femme, qui se brouille avec les femmes et qui finit par se brouiller avec lui-même, ce qui est totalement. désastreux et calamiteux.
Mais oui, on retrouvera la citation pour la lire. Pour la lire. Par contre, Debray cite Hegel comme vous l'aviez fait. Oui. On savait depuis Hegel que la tragédie, voilà. C'est quand les deux côtés ont raison ensemble.
J'avais une conversation avec le sujet, et je trouvais ça très. Une mise en fiction de ces histoires-là. Quoi. Voilà.
Et c'est vrai que dans Les Bons Offices, on a un éclairage du chaos individuel du personnage de Sanchotte, qui est une sorte de miroir, mais à nouveau un éclat du miroir qui reproduirait le chaos du monde.
Oui, c'est un personnage miroir, c'est-à-dire que c'est un personnage métonymique. Il est une partie pour le tout, il est une toute minuscule partie, totalement représentative. Au fond, son ambition dans la vie, c'est de refléter à ses dépens le désordre du monde. Au fond, c'est un témoin. C'est un témoin qu'on a mis dans une position d'acteur, alors qu'il n'aurait dû être qu'un témoin. Mais sa bonne volonté, ses bonnes intentions, ses bons offices le poussent à une incarnation dont il est incapable. Et d'ailleurs, qui, foncièrement, il n'appelle pas de ses voeux. Il devrait se cantonner dans un rôle de témoin. Ça n'a rien de méprisable d'être un témoin. Mais il ne s'accepte pas comme seul témoin. Le problème, c'est qu'il. En débordant le témoin qu'il est, et en ne s'engageant pas résolument pour une raison ou pour une autre, il finit par tomber entre deux chaises, quoi. Voilà. Comme il tombe entre deux femmes.
Et comme le monde est finalement dans une sorte de grand désordre. C'est aussi un personnage dont, et là à nouveau par effet de miroir sur la complexité du monde, c'est aussi un personnage dont vous essayez d'identifier et de décrire la complexité, notamment dans les moments où, écolier, on l'interroge sur ses souvenirs d'enfance, et les souvenirs viennent. Alors notamment les grandes catastrophes auxquelles il est déjà témoin, mais témoin inopportun. C'est un jeune homme de 16 ans qui prend le train pour aller à Marcinelle.
Une absurdité totale, et c'est parce qu'il entend parler le 1er août 56 de la catastrophe et qu'il se dit ou bien j'écoute ça et j'y vais. Au fond, Sanchotte, c'est peut-être son beau côté, c'est un vérificateur des comptes, c'est-à-dire que c'est un homme, quand il entend parler de quelque chose, il ne se contente pas de ça. Ce n'est pas c'est amusant d'ailleurs, puisqu'on parle de Régis Debray qui est un médiologue. Sanchotte, c'est tout sauf un médiologue. Lui, il ne se contente pas de commenter les événements. Il veut les voir, il veut les vivre, il veut passer à travers, il veut se roussir le poil, il veut aller au charbon, il veut mettre ses mains dans le cambouis. Mais il n'est pas très doué. C'est la tragédie d'un homme qui veut faire ça, mais qui, au fond, n'est pas très doué. Et il aurait dû se satisfaire de sa position de témoin. Mais c'est peut-être son mérite et son côté attachant de ne pas s'être contenté de ça. Donc il ne reste pas sur la rive avec des jumelles, ou comme on est à l'opéra pour regarder les belles poitrines des cantatrices. Non, il monte sur la scène et il se mêle au personnage de la Traviata, ou au personnage de la Tosca, ou au personnage des Nibelungen, quoi. Il veut en être, quoi, même s'il chante mal. Je ne pensais pas à ça, mais je crois que c'est un peu ça qui lui arrive. Il aime tellement l'opéra qu'il veut en être, même comme petit figurant, quoi.
Peut-être pour ceux qui écoutent cette interview et qui n'ont pas lu le roman,
il y a peut-être précipité dessus, ils vont le lire.
Oui, absolument. Mais il y a peut-être un moyen de leur faire comprendre la manière dont la catastrophe de Marcinelle, tout le monde en garde une image, un souvenir mental, un souvenir lointain, objectif de faits divers racontés dans la presse. Mais la manière dont vous le racontez, c'est 10 ou 15 pages qui sont étonnantes parce qu'on est partout à la fois.
C'est une vision. C'est-à-dire, c'est une tragédie incompréhensible, mais c'est plus honnête de la décrire comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, avec ces chevaux crevés qu'on remontait du sixième sous-sol, avec ces cadavres qui arrivaient un à un, face à cette foule maintenue derrière des grilles et qui reconnaît, qui tantôt reconnaissait un mari, un compagnon, un fils. Et ces veuves de tragédie grecque, n'est-ce pas, déjà tout habillées de noir et qui se cramponnaient à ces grilles et qui attendaient comme tout spectateur normal, c'est-à-dire comme cet enfant lui-même, puisqu'il a 16 ans, vous l'avez rappelé. Il est né avec la guerre, donc il a exactement 16 ans quand cela arrive. Et tout ce qu'il comprend de la catastrophe ne vient pas justement de la médiatisation de la catastrophe, ce n'est pas ce qu'ont dit les journaux. Et c'est ce qui lui permet peut-être de débusquer une vérité doublement enfouie. D'abord enfouie parce qu'elle est sous terre, mais enfouie parce qu'on a beaucoup menti sur cette affaire. Que la vraie responsabilité n'était évidemment pas celle des mineurs, c'était celle des directeurs de mines qui n'avaient pas consenti à certaines assurances, etc., à certaines restaurations de la mine, ce qui fait que la catastrophe du bois du Casier était d'une certaine manière inéluctable. Elle l'était depuis des années. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. Et que donc, on roulait vers le gouffre. Et c'est une affaire qui a été effroyablement maltraitée dans la presse. Elle n'a été sérieusement traitée que par l'un ou l'autre journaliste, et qui ont été un peu plus à fond, c'est le cas de le dire. Et aussi, il faut bien le dire, par les commissions du Sénat qui s'en sont occupées. Parce qu'il y a eu un rapport parlementaire qui, lui, a été forcé de divulguer plus de vérités qu'on ne voulait vraiment en divulguer.
Aujourd'hui, lorsque on relit la manière dont vous le racontez, on se rend compte que...
C'est tout en images. Hein. Il n'y a pratiquement pas l'ombre d'un commentaire. Ce sont des images.
Mais on se rend compte justement qu'à travers cette manière de raconter, on se rend compte de ce qu'a été la tragédie, ce dont aucun compte-rendu, aucun jugement, aucun procès-verbal n'a pu rendre compte. C'est ça le travail du romancier.
Je crois que c'est pour ça qu'il faut lire plus de romans que d'essais, parce que, et je suis toujours étonné par ces gens qui disent « moi je n'ai pas le temps de lire de romans parce que je suis un homme sérieux et que donc je n'ai du temps que pour lire des essais, que pour lire des analyses ». Et qui ne se rend pas compte qu'il passe à côté de la vérité des choses, puisque la Bérézina, l'incendie de Moscou, c'est Guérépé qui nous le révèle. Ce ne sont pas les historiens de l'époque que tout le monde a oublié. Que ce soit les historiens russes, contemporains des événements, ou que ce soit des soviétiques qui s'en sont emparés par la suite. Mais c'est vraiment dans Guérépé qu'on trouve une image vraie, bien que totalement imaginaire. Parce que je crois que c'est le rôle du romancier de passer derrière le miroir et de finalement révéler des vérités depuis enfouies et occultées et d'aller vraiment les débusquer, parce que c'est le mentir vrai dont parle Aragon. Il faut mentir pour dire la vérité. Et là, il s'agit de rendre compte de Marcinelle à travers la vision dantesque qu'inspire un tel événement, parce qu'une catastrophe a toujours quelque chose de totalement irréel. Elle est tellement... Pourquoi ? Parce qu'on ne voit jamais un tableau dans son ensemble. Il y a des fragments de ce tableau qui vous pètent à la figure, qui s'éclatent devant vous, qui explosent. Et tantôt on est ici, tantôt là. On est dans une vision chaotique. Mais cette vision chaotique est la vérité de la chose. Parce que Marcinelle, c'était le chaos. C'était la mort chaotique. C'était la mort digne de la Divine Comédie. Quoi. Et il fallait plutôt en rendre compte par une accumulation de visions dont on se demande si elles sont... Si elles sont la reproduction photographique de la vérité ou si elles sont dues à l'imagination fertile d'un enfant qui est en plein délire, parce qu'il ne sait plus ce qui touche, il ne sait plus ce qui est vrai dans tout ça. Quand il va rentrer quelques jours après par le train, il devra presque vérifier qu'il y a du comme une poussière de charbon sur les banquettes du train pour savoir qu'il est vraiment allé vers une mine. C'est tout ce qui le lui rappelle finalement, et pour dire qu'il n'a pas rêvé tout ça.
La découverte par lui de ce qui s'est passé à Marcinelle débute par de la musique. Je vais lire un petit extrait qui annonce comment le personnage, ce jeune homme donc de Paul Sanchotte à 16 ans. Sur les ondes de Radio Bruxelles, les émissions s'interrompent entre deux stations du calvaire. La voix qui parle est neutre, blanche, bien posée. Le langage est sobre, juste à la hauteur des circonstances. Ils sont plus de 250 enfermés dans les galeries à 1 km sous terre, quelque part au sud du pays. Bach, s'insinue encore en filigrane entre les syllabes sèches. Barabam, le sauvetage s'organise, le ministre compétent est arrivé sur les lieux. Il réserve son opinion et demeure encore optimiste, éclairé de bonne volonté et soucieux du bien public. Le roi est en route, il est attendu, sa majesté carnaval. Le directeur des charbonnages estime que toutes les précautions indispensables avaient été prises. Ordre et progrès. Et là, on voit la force de l'écriture romanesque, c'est qu'à partir d'une note de Bach inattendue au moment où on devait entendre les communiqués
oui,
colombophiles.
C'est la passion sur Saint-Matthieu, bien entendu. Et c'était une habitude. Je me demande si ce n'était pas encore l'INR, c'était pas encore la RTB. Je crois que quand il y avait une catastrophe nationale, que ce soit la mort d'un roi, que ce soit un grand fait divers, on interrompait les émissions en faisant entendre du Bach. Pauvre Bach qui servait toujours à ça. Et c'était sur le premier programme, c'était pas sur Musique 3, c'était pas le troisième programme, c'était pas la chaîne culturelle. On savait que quand on entendait de la musique classique sur le premier programme, ça me fait toujours rire, c'était très mauvais signe, c'est qu'il y avait une tragédie dans l'air. C'est comme si la musique ne méritait que ce sort-là. Et en particulier Bach, quoi. Et en particulier la Passion selon Saint-Matthieu, qui a servi un nombre considérable de fois. Et comme je crois que c'est la plus belle œuvre musicale qu'un esprit humain ait jamais fécondée, ça m'a toujours fait sourire, quoi.
Alors, plus loin, vous dites, de l'accident lui-même, on ne peut rien apercevoir et l'on doit tout imaginer, puisqu'il a eu lieu, puisqu'il se produit encore à l'instant même sous les pieds de ceux qu'il rassemble ici pour communier dans l'épouvante. Et là, en une seule phrase, tout est dit, et la catastrophe, et votre démarche.
Oui, parce que ce roman est aussi celui de l'éveil d'une conscience. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant se dessille les yeux? C'est-à-dire quand... J'ai toujours entendu dire que les tigres naissaient aveugles. Et je me suis toujours demandé à quel âge ils les ouvraient vraiment. Enfin, ça doit venir très vite. Mais les enfants sont comme des tigres aussi à la naissance. On ne sait rien du monde, on doit tout apprendre. C'est la position même de Julien Delmas dans l'Inde ou l'Amérique, d'ailleurs. Et ça m'a toujours obsédé, ça. Comment est-ce que peu à peu nous apprenons le monde? Comment est-ce que peu à peu nous le comprenons? Alors ici, la métaphore est impitoyable, c'est que ça se passe en plus sous terre. Mais ça se passe aussi sous terre dans notre esprit. C'est-à-dire, jusqu'à ce 1er août 56, cet enfant ne sait rien de la condition ouvrière, pour le dire avec un peu d'emphase. Il ne sait rien de l'immigration. Il ne sait rien des grands troubles sociaux et de la lutte des classes. Quoi. Il ne sait rien de tout ça. Et d'une certaine manière, c'est ça qui, en un seul instant, et surtout quand il sera allé à Marcinelle, pour voir comment c'est, que d'une certaine manière, je ne vais pas dire qu'il le comprend, mais qu'il en prend la mesure. Et alors c'est incurable, c'est pour la vie, quoi. Sauf qu'il lui faudra aller en Palestine bien plus tard pour finalement recomposer ce puzzle où les pièces sont toujours manquantes, et pour avoir une vue finalement panoramique de l'histoire de son propre pays.
On pourrait dire que le romancier est le seul qui est apte à redonner à son insu au personnage une cohérence.
Oui, je dirais volontiers. Ça a l'air présomptueux, mais je crois que ça ne l'est pas. Je crois que pour bien comprendre un fait divers ordinaire, prenons un cas historique célèbre, c'est Madame Bovary de Flaubert. Comment voulez-vous... Enfin, l'histoire de Madame Bovary est d'une platitude et d'une banalité confondante.
C'est inspiré d'un fait divers, d'ailleurs.
C'est un fait divers, mais un fait divers d'une banalité totale. Il n'y avait aucune raison de divulguer le vrai fait divers, puisque c'est un fait divers, c'est ce qu'on appelle un chien crevé, c'est un chien écrasé. C'est le fait divers qui n'intéresse personne, puisqu'il est... Il y a de Madame Bovary dans le monde entier tout le temps. Hein, c'est pas un grand fait divers majestueux, et comme Marcinelle, ça n'a rien à voir. C'est tout petit, Madame Bovary. Mais le génie de Flaubert a consisté à décortiquer, à visiter les moindres galeries de ce petit labyrinthe minuscule. Mais quel commentateur, quelle analyse d'une histoire de Bovary pourrait rendre compte de toutes ces aspérités, de toutes ces tonalités, de toutes ces parties, de toutes ces composantes? Il faut forcément le raconter, et non pas l'analyser pour le donner à voir. Et si... on peut être bouleversé par la lecture d'un roman, c'est qu'il divulgue, il révèle parfois une vérité que nous ne savions pas, que nous connaissions, que nous n'avions pas mise en mots pour nous-mêmes, que nous n'avions pas conceptualisé, que nous n'avions pas mise en ordre, et que tout à coup ce n'est pas une analyse aussi fine et aussi subtile soit-elle qui nous le donne à voir, mais c'est la monstration. C'est vraiment là, c'est le film mis en mots.
Et peut-être aussi qu'à la différence du personnage de Sanchotte dans ce cas-ci, le romancier Pierre Mertens s'engage. Et il s'engage avec, je dirais, le stylo plongé dans l'encrier du cœur, puisqu'il y a une empathie extraordinaire, que ce soit dans cette scène-ci ou dans d'autres scènes ultérieures. Il y a une forme d'empathie intense entre la souffrance et le témoin qui est là et qui la raconte.
Oui, je suis très touché par ce que vous dites là, c'est que parce que, évidemment, vous savez, la méfiance que j'ai pour le mot engagement, donc le mot engagement m'apparaît tellement réducteur, et puis il a été tellement utilisé à des fins dogmatiques et doctrinaires et purement idéologiques que je me tiens un peu à l'écart de ce mot. Mais, et pourtant, il correspond à quelque chose de vrai, c'est que pour s'engager vraiment, il faut s'incarner, il faut faire partie de la pièce. Il faut mettre les pieds dedans. Et que, par conséquent, le plus sûr moyen de le faire partager par autrui, de faire comprendre le sens d'une catastrophe, le sens d'une guerre, le sens d'un cataclysme, que ce soit qu'il soit d'origine politique ou qu'il soit une calamité naturelle, c'est de le montrer, c'est de le donner à voir. Là, une véritable émotion peut naître. Prenons un cas extraordinairement différent, l'histoire du tsunami. Si le tsunami nous a émus, c'est parce que l'image télévisuelle de ces déferlantes, et seules ces images pouvaient nous parler vraiment. Tout commentaire paraissait futile ou frivole ou absolument abstrait par rapport à ça. On aurait pu montrer le tsunami en muet. No comment, comme disent ces phases de certains journaux télévisés où finalement il n'y a pas à parler parce que quand on voit une foule à Téhéran lors d'une grande manifestation et tout, et que vous voyez no comment et qu'il n'y a pas l'ombre d'un commentaire, c'est totalement fondé. Parce que s'il y en avait un, à la limite, il nous aveuglerait, il jetterait de la confusion dans notre esprit, alors que les images laissées nues nous en disent beaucoup plus long.